Cette lettre est devenue bien longue, quoiqu'en vérité elle soit bien courte, si l'on considère l'étendue immense du sujet. J'ai été forcé, de temps en temps, de donner mon attention à d'autres affaires. Je n'étais pas fâché d'observer, à loisir, si la marche de l'Assemblée nationale ne fournirait pas quelques motifs de changer ou d'adoucir mes premiers sentiments. Tout ce qui est arrivé m'a confirmé plus fortement dans mes premières opinions. Mon premier dessein était de considérer les principes de l'Assemblée nationale relativement aux grands établissements fondamentaux et de comparer tout l'ensemble de ce que vous avez substitué à toutes vos destructions avec différentes parties de notre Constitution anglaise. Mais ce plan est d'une plus grande étendue que je ne l'avais estimé d'abord, et j'ai trouvé que vous étiez peu curieux de tirer parti des exemples. À présent, il faut que je me borne à quelques remarques sur vos nouveaux établissements, me réservant de traiter dans un autre temps ce que je m'étais proposé de dire sur l'esprit de notre monarchie, de notre aristocratie et de notre démocratie anglaise, telles qu'elles existent dans la pratique. J'ai passé en revue tout ce que vient de faire le pouvoir qui gouverne aujourd'hui en France. J'en ai parlé avec liberté, ce dont le principe est de mépriser le sentiment permanent et ancien du genre humain et de former un plan de société d'après de nouveaux principes, doivent naturellement s'attendre que ceux qui, comme nous, attachent au jugement de toute la race humaine plus d'importance qu'au leur, ne prononceront sur eux et sur leurs inventions que comme on doit prononcer sur des hommes et sur des projets d'après l'épreuve qui en est faite. Ils doivent prendre pour accordé que nous nous occuperons beaucoup de leur raison, mais nullement de leur autorité. Ils n'ont pas en leur faveur un des grands préjugés qui influent sur le genre humain. Ils avouent qu'ils déclarent la guerre à l'opinion. Ils ne doivent donc espérer aucun appui de cette influence qu'ils ont, de même que toute autorité, déposée du siège de sa juridiction. Je ne pourrai jamais considérer cette assemblée autrement que comme une association volontaire d'hommes qui ont profité des circonstances pour s'emparer du pouvoir de l'État. Ils n'ont point l'autorité ni la sanction du caractère primitif sous lequel ils se sont d'abord rassemblés. Ils en ont pris un autre d'une nature bien différente, et ils ont totalement altéré et renversé toutes les relations sous lesquelles ils existaient d'abord. Ils ne tiennent l'autorité qu'ils exercent d'aucune loi constitutionnelle de l'État. Ils se sont écartés des instructions qu'ils avaient reçues du peuple qui les avait envoyées. Instruction qui était la seule source de leur autorité, puisque l'Assemblée n'agissait en vertu d'aucun ancien usage, ni en vertu d'aucune loi établie. Ces décisions les plus importantes n'ont pas obtenu une grande majorité, en sorte que l'autorité présumable de l'ensemble, n'étant déterminée que par une division des votes si voisine du partage, ceux qui y sont étrangers considéreront autant les motifs que les décisions. S'ils eussent établi ce nouveau gouvernement expérimental comme le substitut nécessaire d'une tyrannie abattue, le genre humain s'empresserait d'anticiper en leur faveur le temps de la prescription qui finit par rendre légaux, par une longue existence, les gouvernements qui étaient violents dans leur commencement. Tous ceux que leurs affections dirigent vers la conservation de l'ordre civil auraient reconnu comme légitime, même dans son berceau, cet enfant né des principes d'une utilité coactive qui a donné naissance à tous les gouvernements équitables et qui justifie leur durée. Mais, au contraire, ils mettront autant de répugnance que de lenteur à accorder quelque sorte d'accession aux actes d'un pouvoir qui ne doit sa naissance ni à la loi ni à la nécessité, mais qui, au contraire, a tiré son origine de ses vices et de ses pratiques sinistres qui troublent souvent et détruisent quelquefois l'union sociale. Cette assemblée peut à peine, en sa faveur, opposer une prescription d'une année. Nous avons son propre aveu qu'elle a fait une révolution. Faire une révolution est une mesure qui, prima facie, demande que l'on se justifie. Faire une révolution, c'est renverser l'ancien état des choses d'un pays. Et il faut des raisons extraordinaires pour justifier un procédé si violent. L'opinion du genre humain nous autorise à examiner le genre de moyens par lesquels on acquiert un nouveau pouvoir et à critiquer l'usage que l'on en fait avec moins de crainte et de respect que l'on en accorde ordinairement à une autorité établie et reconnue. L'Assemblée, pour obtenir et assurer son pouvoir, agit d'après les principes les plus opposés à ceux qu'elle paraît suivre lorsqu'elle en fait usage. Une observation sur cette différence nous dirigera vers le véritable esprit de sa conduite. Tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent, où tout ce qu'elle fait encore pour obtenir et pour conserver son pouvoir est, en fait d'art, tout ce qu'il y a de plus commun. Elle agit exactement comme ont fait avant elle tous ses ancêtres en ambition. Suivez-les attentivement dans toutes leurs fraudes, dans leurs artifices et dans leurs violences, vous ne trouverez rien de neuf. Ils suivent les antécédents et les faits avec la pointilleuse exactitude d'un plaideur. Ils ne s'écartent jamais d'un iota des formules antiques de la tyrannie et de l'usurpation. Mais dans leurs opérations relatives au bien public, leur ardeur les porte tout à fait à l'opposé. Ils abandonnent le tout à la merci des spéculations les plus nouvelles. Ils livrent les intérêts les plus chers du public à ces théories incertaines auxquelles pas un seul d'entre eux ne voudrait confier le plus médiocre de ses intérêts privés. La raison de cette différence tient à ce que, dans leur désir d'obtenir et de conserver le pouvoir, c'est tout de bon qu'ils agissent. Ils voyagent sur les chemins battus, au lieu que, relativement aux intérêts du public, qui ne leur causent pas des sollicitudes bien réelles, ils les abandonnent entièrement au hasard. Je dis « au hasard » parce que leurs plans n'ont rien dans l'expérience pour prouver leur but avantageux. Lorsqu'il s'agit d'erreurs commises par des personnes timides et défiantes dans ce qui tient au bonheur du genre humain, nous devons toujours les considérer avec une pitié mêlée de respect. Mais parmi ces messieurs, aucun élan de la nature ne développe cette sollicitude paternelle qui frémit à la vue d'une épreuve cruelle et menaçante pour les jours d'un enfant chéri. Ils surpassent de beaucoup, par l'étendue de leurs promesses et par l'assurance de leurs prédictions, toute l'emphase des empiriques. L'arrogance de leurs prétentions est, en quelque sorte, un défi qui nous provoque à rechercher sur quoi elles sont fondées. Je suis convaincu qu'il y a des hommes du plus grand talent parmi les chefs du Parti populaire dans l'Assemblée nationale. Quelques-uns montrent de l'éloquence dans leurs discours et dans leurs écrits. Cela suppose nécessairement des moyens puissants et cultivés. Mais l'éloquence peut exister sans aucun degré de sagesse. Lorsque je parle d'habileté, je suis obligé de distinguer. Ce qu'ils ont fait en faveur de leur système indique des hommes au-dessus du commun. Dans le système en lui-même, considéré comme le plan d'une république, composé de manière à procurer la tranquillité et la prospérité des citoyens, et à étendre la force et la grandeur de l'État, j'avoue qu'il ne m'a pas été possible de rien découvrir qui montrât, sous le moindre rapport, l'ouvrage d'un esprit étendu et bien réglé, ni même les projets de la prudence la plus vulgaire. Partout, il semble que leur but ait été d'éviter la difficulté ou de glisser à côté. La gloire de tous les grands maîtres a toujours été, dans tous les genres, l'opposition et le besoin de vaincre. Et quand ils ont vaincu la première difficulté, de s'en servir aussitôt comme d'une arme pour triompher des embarras nouveaux, afin de s'aguerrir ainsi dans les moyens d'étendre l'empire de la science, et même de reculer au-delà de l'enceinte des premières pensées, les bornes de l'entendement humain. La difficulté est un maître sévère qui nous a été donné par l'ordre suprême d'un Père qui veille sur nous, d'un législateur qui nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, et qui nous aime mieux aussi. Pater ipse colendi haud facilem esse viam voluit. Le père a lui-même décrété que la tâche du fermier ne devait pas être facile. Virgile, Géorgique. Celui qui lutte avec nous fortifie nos nerfs et aiguise notre savoir. Nous trouvons un aide dans notre antagoniste. Un débat amical sur les difficultés nous familiarise avec notre objet et nous oblige à le considérer sous tous ses rapports. Il ne nous permet pas d'être superficiel. C'est le défaut de force et d'intelligence pour ces sortes d'exercices, c'est le goût dépravé de prendre les chemins les plus courts et des petites facilités trompeuses qui a créé dans tant de parties du monde des gouvernements arbitraires. C'est ce qui avait produit l'ancien gouvernement arbitraire de la France. C'est ce qui a enfanté la République arbitraire de Paris. Par leurs moyens, on supplée par la plénitude de la force à l'absence de la sagesse. On n'y gagne rien. En commençant leurs travaux sur un principe de paresse, ils ont le sort commun à tous les hommes paresseux. Les difficultés qu'ils ont plutôt éludées qu'évitées se présentent de nouveau à leur rencontre. Elles se multiplient, elles s'amoncellent autour d'eux. Ils se trouvent égarés au milieu d'un labyrinthe de détails confus. Ils n'en aperçoivent plus les limites et leur industrie s'écarte de la voie droite. Enfin, tout l'ensemble de leur ouvrage devient faible, vicieux et incertain. C'est pour n'avoir pas su lutter avec les obstacles que l'Assemblée arbitraire de France a commencé ses plans de réforme par l'abolition et par la destruction. Note. Un des principaux membres de l'Assemblée, M. Rabaud de Saint-Étienne, a exprimé le principe de tout leur procédé de la manière la plus claire. On ne peut rien de plus simple. Tous les établissements en France couronnent le malheur du peuple. Pour le rendre heureux, il faut le renouveler. Changer ses idées, changer ses lois, changer ses mœurs. Changer les hommes, changer les choses, changer les mots. Tout détruire. Oui, tout détruire, puisque tout est à recréer. Cet homme a été choisi pour président dans une assemblée qui ne siégeait pas aux 15-20 ou aux petites maisons, dans une assemblée qui se donne pour être composée de membres très raisonnables. Ses idées au surplus, son langage ou sa conduite ne diffèrent en rien des opinions, des discours et des actions de ceux qui, tant au dehors qu'au dedans de l'assemblée, dirigent les opérations de la grande machine qui travaille maintenant en France. Fin de la note. Mais est-ce en détruisant et en renversant que le savoir se fait connaître? Votre populace ferait cela au moins aussi bien que vos assemblées. L'intelligence la plus bornée, la main la plus grossière, suffisent et au-delà pour cette tâche. La rage et la frénésie détruiront plus en une demi-heure que la prudence, la circonspection et la prévoyance ne pourront édifier en un siècle. Les erreurs et les défauts des anciens établissements sont visibles et palpables. Il faut peu de talent pour les signaler, et dès qu'on a en main le pouvoir absolu, il ne faut qu'un mot pour abolir tout à la fois l'établissement et ses vices. Cette même complexion indolente, mais agitée, qui aime la paresse et hait le repos, dirige ses politiques lorsqu'il s'agit de travailler pour remplacer ce qu'ils ont détruit. Faire le contraire de tout ce qui existait est presque aussi aisé que de détruire. Il ne se présente aucune difficulté dans ce qu'on n'a jamais essayé. On brave la critique quand ses découvertes ne peuvent porter que sur des choses qui n'ont jamais existé, et l'ardeur de l'enthousiasme, les illusions de l'espérance ont devant elles le champ sans borne de l'imagination pour s'y donner carrière sans peu ou point d'opposition. En un mot, conserver et réformer sont deux choses tout à fait différentes. Lorsque vous respectez les parties utiles d'un établissement ancien et que la partie ajoutée s'adapte à celle que vous conservez, c'est alors que vous devez mettre en jeu le nerf de l'esprit, le calme et la persévérance de l'attention, les puissances variées de la comparaison et de la combinaison, et toutes les ressources d'un esprit fécond en expédients. Elles ont à s'exercer dans une lutte continuelle avec la force combinée des vices les plus opposés, avec l'obstination qui rejette toute amélioration et la légèreté qui est fatiguée de tout ce qu'elle possède. Mais, allez-vous m'objecter ? Un procédé de cette nature est lent. Il ne convient pas à une assemblée qui met sa gloire à faire en peu de mois l'ouvrage des siècles. Une telle manière de réformer peut employer plusieurs années. Oui, sans doute, elle le peut et elle le doit. Un des grands avantages d'une méthode dans laquelle le temps est un moyen nécessaire, c'est que ces opérations soient lentes et, dans quelques circonstances, presque imperceptibles. Si, lorsque nous travaillons sur des matières inanimées, la circonspection et la prudence sont commandées par la sagesse, ne le sont-elles pas, à plus forte raison, par le devoir? Lorsque ces objets de notre construction et de notre démolition ne sont ni de la brique, ni du bois de charpente, mais des êtres animés dont on ne peut altérer subitement l'état, la manière d'être et les habitudes, sans en rendre misérable le plus grand nombre. On dirait que l'opinion dominante à Paris est que pour un parfait législateur, les seules qualités requises sont un cœur insensible et une conscience qui ne doute de rien. Mes idées sont bien différentes sur cette haute dignité. Un vrai législateur devrait avoir un cœur rempli de sensibilité. Il devrait aimer et respecter ses semblables et se craindre lui-même. Il faut que d'un seul coup d'œil, il puisse embrasser tout l'ensemble de son objet et qu'il ne l'examine ensuite qu'avec combinaison et réflexion. Un arrangement politique étant un ouvrage qui a la société pour objet, ne doit être exécuté qu'avec des éléments qui conviennent à la société. Là, l'esprit doit conspirer avec l'esprit. Il n'y a que le temps qui puisse produire cette union, d'où résulte tout le bien auquel nous visons. Notre patience fera plus que notre force. Si je pouvais risquer d'en appeler à ce qui est actuellement si fort hors de mode à Paris, je veux dire à l'expérience, je vous dirais que dans le cours de ma vie, j'ai connu de grands hommes et que, selon ma portée et ma position, j'ai eu à coopérer avec eux, et que je n'ai encore vu adopter aucun plan sans qu'il n'eût été modifié, d'après les observations de ceux qui étaient fort inférieurs en intelligence, à ceux qui étaient à la tête du travail. Par un progrès lent, mais bien soutenu, l'effet de chaque pas est surveillé. Le bon ou le mauvais succès du premier donne des lumières pour le second. Et ainsi, de lumières en lumières, nous sommes dirigés sûrement dans toutes les parties. Nous voyons si les parties du système ne se heurtent point. Les maux, cachés dans les dispositions qui promettaient le plus, sont détruits à mesure qu'ils se présentent. On sacrifie le moins possible un avantage à un autre. Nous compensons, nous faisons accorder, nous balançons, nous devenons capables d'unir en un tout qui a de la consistance les diverses analogies et les principes opposés qui se rencontrent dans les esprits et dans les intérêts des hommes. De là se forme, non une simplicité parfaite, mais, ce qui est infiniment supérieur, une composition excellente, dans toutes les mesures qui doivent intéresser le genre humain pendant une longue succession de générations. Cette succession elle-même devrait être admise à prendre quelque part dans les conseils auxquels elle a un intérêt si profond. Si la justice l'exige ainsi, l'ouvrage, par lui-même, a besoin d'un plus grand nombre d'esprits que le cours d'un siècle n'en peut produire. C'est d'après cette manière de voir que les meilleurs législateurs ont souvent approuvé, dans les gouvernements, l'établissement de quelques principes législatifs sûrs, solides et régulateurs. Un pouvoir semblable à celui que quelques philosophes ont appelé une nature créatrice, et qu'après en avoir fixé le principe, ils l'ont ensuite abandonné à l'effet de sa propre opération. Agir de cette manière, c'est-à-dire avec un principe dominant et avec une énergie productrice, c'est, selon moi, la preuve d'une profonde sagesse. Ce que vos politiques regardent comme la marque d'un génie hardi et entreprenant n'est que la preuve d'un manque déplorable d'habileté. Leur violente précipitation d'une part, et de l'autre leur aversion pour la marche lente de la nature, sont causes qu'ils sont aveuglément livrés à tous les faiseurs de projets, aux aventuriers, à tous les alchimistes et à tous les empiriques. Ils désespèrent de trouver aucun parti de rien de ce qui est commun. La diète n'entre pas dans leur système de médecine. Le pire, c'est que leur défaut de confiance dans les méthodes régulières pour guérir les maladies communes vient non pas seulement d'un défaut d'intelligence, mais, j'en ai bien peur, de quelque malignité dans leur disposition. On dirait que vos législateurs ont puisé toutes leurs opinions sur les professions, sur les rangs et les emplois de la vie, dans les déclamations et dans les bouffonneries des satiriques, qui seraient eux-mêmes bien étonnés s'ils voyaient que leurs peintures sont aujourd'hui prises à la lettre. En écoutant que ces satires, vos guides ne considèrent les objets que sous le côté de leurs vices et de leurs défectuosités, et voient ces vices et ces défectuosités sous toutes les couleurs de l'exagération. Cette assertion est indubitablement vraie, quoiqu'elle puisse paraître paradoxale. Mais en général, ceux qui sont habituellement employés à chercher et à découvrir des fautes sont incapables de travailler à des réformes, non seulement parce que leurs esprits sont dépourvus de modèles de ce qui est bon et beau, mais parce que, par habitude, ils finissent par ne trouver aucun plaisir à la contemplation de ces choses. En haïssant trop les vices, ils finissent par aimer trop peu les hommes. C'est pourquoi il n'est pas étonnant qu'ils deviennent incapables de les servir, et même qu'ils y soient moins disposés. De là vient que beaucoup de vos guides sont transportés par leur complexion même à tout briser. C'est à ce jeu cruel qu'ils déploient tout ce qu'ils ont de moyens. Quant au surplus, tout ce qui est paradoxe dans les plus habiles écrivains, tout ce qu'ils ont produit seulement comme des jeux de leur imagination et comme des essais de leur talent pour éveiller l'attention et pour exciter la surprise, ces messieurs s'en emparent, dans l'esprit original de leurs auteurs, comme des moyens de cultiver leur goût et de perfectionner leur style. Ces paradoxes deviennent pour eux des règles sérieuses de conduite, d'après lesquelles ils règlent les intérêts les plus importants de l'État. Cicéron dépeint d'une manière plaisante Caton, s'efforçant à agir dans la République, d'après les paradoxes des écoles avec lesquelles on exerçait l'esprit des jeunes élèves de la philosophie stoïque. Si cela fut vrai à l'égard de Caton, ces messieurs renouvellent d'après lui, à la manière de quelques personnes qui vivaient dans ce temps-là, le pede nudo catonem, Caton aux pieds nus. M. Hume m'a dit qu'il tenait de Rousseau lui-même le secret de ses principes de composition. Cet observateur fin, quoique bizarre, avait observé que, pour frapper et intéresser le public, il fallait du merveilleux, que depuis longtemps la mythologie des faux dieux avait perdu son effet, que les géants, les magiciens, les fées et les héros de romans qui lui avaient succédé avaient aussi épuisé la portion de crédulité qui appartenait à leur siècle, que maintenant un écrivain n'avait plus d'autre espèce de merveilleux à employer que celui du paradoxe, et que l'on pourrait en tirer un plus grand parti qu'autrefois, quoique dans une différente manière, c'est-à-dire le merveilleux dans la vie, dans les manières, dans les caractères et dans les situations extraordinaires, d'où l'on pourrait faire naître des effets frappants, imprévus et nouveaux en politique et en morale. Je crois que si Rousseau vivait encore, et que si, dans un de ses moments lucides, il voyait ce qui se passe, il serait effrayé de la frénésie pratique de ses élèves, qui, dans leur paradoxe, ne sont que des imitateurs serviles, et qui, même dans leur incrédulité, montrent implicitement leur foi. Les hommes qui entreprennent des choses considérables, même d'une manière régulière, devraient nous donner des moyens de présumer leur habileté. Mais le médecin de l'État, qui, non content de guérir ses maux, entreprend de régénérer sa constitution, devrait montrer des facultés au-dessus du commun. Ceux qui n'en appellent point à la pratique et qui travaillent sans modèle devraient donner à l'extérieur de tous leurs projets quelques marques caractéristiques d'une sagesse non commune. A-t-on manifesté rien de semblable? Je vais jeter un coup d'œil, il sera bien court, par rapport à l'étendue du sujet, sur ce que l'Assemblée a fait, d'abord, relativement à la constitution de la législature. En second lieu, sur le pouvoir exécutif, en troisième lieu sur l'ordre judiciaire, ensuite sur le plan de l'armée, et pour conclure sur son système de finances, pour voir si nous pourrons découvrir dans quelques-uns de ses plans une habileté assez prodigieuse pour justifier les entrepreneurs hardis qui les ont proposés et les prétentions à la supériorité qu'ils s'attribuent sur le reste du genre humain. C'est dans la forme de cette partie souveraine et dominante de cette République nouvelle que nous devrions espérer de trouver le grand développement de leur savoir. C'est ici qu'ils devaient prouver leur titre à toutes leurs fières demandes. Pour connaître ce plan dans sa totalité, ainsi que les raisons sur lesquelles il est fondé, je m'en réfère aux journaux de l'Assemblée du 29 septembre 1789 et à toutes les opérations subséquentes qui ont apporté des changements à ce plan. Autant que je puis voir clair dans une matière si confuse, il me semble que le système subsiste substantiellement comme il avait été projeté d'abord. Le petit nombre de mes remarques portera donc sur l'esprit, sur la tendance et sur la propriété qu'il peut avoir pour former un gouvernement populaire tel qu'ils assurent que le leur doit être, comme étant le plus approprié au but de tous les gouvernements. Je me propose en même temps d'examiner ses rapports avec lui-même et avec ses principes. On juge les anciens établissements par leurs effets. Si le peuple est heureux, uni, riche et puissant, on présume aisément le reste. Nous concluons qu'une chose est bonne quand il en dérive de bons effets. Dans les vieux établissements, on a trouvé différents correctifs pour les points où ils s'écartaient de la théorie. Ils sont le résultat de différentes nécessités et de différents expédients. Il arrive souvent qu'ils ne dérivent d'aucune théorie, mais bien plutôt que les théories en dérivent. Ils conduisent quelquefois mieux au but que les moyens qui paraissent s'accorder davantage avec ce que nous imaginons avoir été le plan primitif. Les ressources fournies par l'expérience conviennent mieux aux fins politiques que celles qu'on invente dans des projets tout neufs. Elles réagissent sur la constitution primitive et quelquefois elles perfectionnent le dessin même duquel elles semblent s'être écartées. Je crois que la constitution anglaise pourrait fournir des exemples curieux de tout ceci. Au pis-aller, les erreurs et les déviations de toute espèce sont calculées et estimées et le vaisseau poursuit sa route. Tel est l'état des choses dans les vieux établissements. Mais dans un système nouveau et purement théorique, on s'attend que chacun des moyens apparents répondra à sa fin, surtout lorsque les entrepreneurs n'ont nullement à compter au nombre de leurs efforts le soin d'adapter leur nouvel édifice, soit aux murailles, soit aux fondations d'un ancien. Les constructeurs français, balayant comme de purs décombres tout ce qu'ils ont trouvé, et semblables aux jardiniers de leur parterre, nivelant tout avec soin, se proposent de poser toute leur législature générale et locale sur trois bases de trois différentes espèces. Une géométrique, une arithmétique et une financière. Ils appellent la première base territoriale, la seconde base de la population et la troisième base de la contribution. Pour exécuter le premier de leurs desseins, ils partagent tout le territoire de leur pays en 83 morceaux ou carrés réguliers de 10 lieues sur 18 à peu près. Ces grandes divisions s'appellent départements. Tous ces départements sont sous-divisés, toujours carrément, en 1720 districts. Ces districts en cantons, et ceux-ci encore se subdivisent toujours carrément en de plus petits cantons appelés municipalités, ce qui fait en tout 64 000. Au premier aspect, on ne voit rien dans cette base géométrique de leur invention qui soit forte à admirer, forte à blâmer. Cela n'exige pas de grand talent législatif. Un arpenteur exact, avec sa chaîne et son graphomètre, est très propre à en faire autant. Dans l'ancienne division du territoire, divers accidents arrivés dans des temps divers, le flux et le reflux de diverses propriétés réglaient ses limites. Ces limites, on le sait, n'était l'ouvrage d'aucun système établi. Elles étaient sujettes à quelques inconvénients. Mais c'étaient les inconvénients auxquels l'usage avait trouvé des remèdes et auxquels l'habitude avait trouvé la convenance et la patience. Dans cette nouvelle marqueterie de carrés dans des carrés et dans ces organisations en demi-organisations, faites sur le système des Empédocles et des Buffons et non sur un principe de politique, il se rencontrera nécessairement une multitude d'inconvénients locaux auxquels les hommes ne sont pas habitués. Mais je les néglige, parce que pour les détailler, il faudrait avoir une connaissance locale du pays plus particulière que je ne l'ai. Lorsque ces arpenteurs de l'État vinrent à examiner les œuvres de leur symétrie, ils reconnurent bientôt qu'en politique, la plus fausse de toutes les choses était une démonstration géométrique. Ils eurent alors recours à une autre base, ou plutôt à un autre étai, pour soutenir ce bâtiment qui chancelait sur cette fondation trompeuse. Il était évident que la bonté du sol, la population, la richesse et la force des contributions mettaient des différences si infinies entre tous ces carrés que cette différence devait être une preuve que l'arpentage est de tous les procédés le plus ridicule pour estimer la puissance d'un État et que l'égalité géométrique est la plus inégale de toutes les mesures dans la distribution des hommes. Cependant, ils ne pouvaient pas l'abandonner, mais en divisant leur représentation civile et politique en trois parties, ils en accordèrent une à la mesure carrée, sans se mettre aucunement en peine de vérifier si cette proportion territoriale de représentation était convenablement déterminée, et si, d'après quelques principes, elle devait réellement être le tiers. Après avoir cependant accordé à la géométrie cette portion d'un tiers pour son douaire, et cela, je le suppose, seulement pour rendre hommage à cette sublime science, ils abandonnèrent les deux autres tiers aux deux autres parties, la population et la contribution.